Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième émission Il est écrit en direct. Vous avez été nombreux au mois de novembre à être avec nous pour cette toute première émission. Et maintenant donc la deuxième, on espère qu'elle aura un retentissement au moins aussi important parce que la première, non seulement vous étiez nombreux en direct, mais vous avez été très nombreux en différé. On a eu de très nombreux commentaires et j'espère que cette émission va aussi être une émission qui va vous intéresser et pouvoir vous faire du bien. Alors vous connaissez le principe de l'émission, il y a un thème, je vais vous le présenter dans un instant, il y a des invités, je vais les introduire également dans quelques instants, et puis il y a vous qui êtes là, qui participez à l'émission en direct, avec vos questions, avec vos commentaires. Et tout de suite, je vous donne les indications pour pouvoir entrer en contact avec nous. Vous pouvez nous écrire à en direct, à commercial, il est écrit.tv, ou bien encore, vous pouvez nous écrire par SMS, par texto, au numéro de téléphone suivant, le 438 le 764 75 02. Ça apparaît certainement à l'écran et vous pouvez donc dès maintenant prendre contact avec nous si vous avez des questions ou des commentaires. Je vous ai dit que j'avais des invités ce soir, je vous les présente tout de suite. Ma première invitée, vous la connaissez bien si vous suivez les émissions, il est écrit régulièrement. Il s'agit de Danielle Starenki, auteure, conférencière au niveau international. Elle est aussi blogueuse. Quand je lui demandais comment est-ce qu'il faut que je vous présente, elle m'a dit « Oui, en ce moment, je suis pas mal blogueuse ». Alors, vous pouvez aller voir son blog. On vous donnera tout à l'heure les indications pour le faire. Danielle Starenki, bonjour, bonsoir. Et bienvenue parmi nous. Vous savez que Danielle Starenki est une grande spécialiste, en particulier de tout ce qui touche la santé. On parle de santé ce soir. Autre invité, pas avec nous dans le studio, mais quelque part en Ontario, lui aussi a participé à des émissions. Je veux parler de Dominique Noël. Bonsoir Dominique, est-ce que tu m'entends?
Oui, je t'entends très bien, 5 sur 5 Rémi. Content d'être avec vous ce soir.
Voilà, merci d'être avec nous. Donc Dominique Noël, qui est infirmier praticien en Ontario et qui est quelqu'un qui a un intérêt tout particulier pour ce qui concerne la prévention et le style de vie. Et puis, j'allais dire, comme dans toutes les émissions, grande spécialiste d'Il est écrit.
Mais pas spécialiste du sujet, par contre.
Oui, mais contente de t'avoir avec nous, France,
ce soir,
pour pouvoir un petit peu aussi représenter nos auditeurs et poser les questions et réagir.
Me mettre un peu dans la peau des auditeurs, effectivement.
Absolument. Alors, la question qu'on se pose, c'est le thème de cette émission, est-ce que la COVID-19 pourrait être une chance pour notre santé? Je sais que cette question, elle est un petit peu provocante et je voudrais tout de suite clarifier certaines choses. D'abord, vous dire que ce soir, on ne va pas parler de vaccin, pour le vaccin, contre le vaccin, quel vaccin, ce n'est pas notre sujet de ce soir. On va parler d'un tout autre sujet, mais sans banaliser la COVID-19. Parce que certains d'entre vous, peut-être, se sont posé la question, mais comment ça, la COVID-19, une chance pour notre santé? Et là, j'entends certains d'entre vous me dire, oui, mais moi, j'ai eu de gros problèmes suite à la COVID-19. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille, peut-être, qui est décédé. moi, je connais des personnes qui ont des problèmes de santé mentale à cause de la COVID-19. Donc, ne croyez pas que ce titre est une banalisation, au contraire. Je suis tout à fait conscient que ça a été une période difficile. C'est peut-être encore pour certains une période difficile et qu'il y a eu des conséquences pour certains dramatiques. Mais le sens de cette question, c'est de se dire, est-ce qu'on peut tirer quelque chose de ce qu'on a appris de la COVID-19? Est-ce que la COVID-19 pourrait être une immense occasion pour, en fait, en tirant les leçons, améliorer notre santé? Et ça va être, c'est dans ce sens-là qu'on va aller dans l'émission de ce soir avec nos invités. Alors, un petit mot par rapport au vocabulaire qu'on utilise depuis que la COVID-19 nous a atteints. Il y a des mots qu'on ne connaissait pas, ou très peu, avant cet épisode COVID-19. Par exemple, même le mot « coronavirus », pour la plupart des gens, c'était quelque chose d'à peu près inconnu. Des mots comme « comorbidité », des mots comme « protein spike », et même « présentiel ». Ce n'était pas un mot très... Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'était pas un mot très connu, hein, très utilisé.
Hein.
Mais maintenant, « présentiel », tout le monde sait ce que ça veut dire. Alors, je vais revenir sur « comorbidité », parce que, en fait... ce soir, ça va avoir un lien très fort avec notre émission. Comorbidité, moi j'ai une définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle dit « association de deux maladies fréquemment observées dans la population et état qui en résulte ». Donc, association de plusieurs maladies. Pourquoi est-ce que ce mot comorbidité m'intéresse particulièrement? Parce que, selon une étude de l'INSPQ, alors, l'INSPQ, maintenant, presque tout le monde sait ce que c'est au Québec, hein, l'Institut national de santé publique du Québec. Ça concerne les deux premières vagues de COVID-19 qu'on a eues. 87% des hospitalisés avaient au moins une comorbidité. Et 97% des décédés avaient une condition médicale préexistante. Et l'INSPQ donne une liste de 14 comorbidités, dont j'en ai relevé 3 ou 4, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, le diabète, l'anémie, et il y en a plusieurs autres. J'ai été voir de l'autre côté de la frontière le fameux CDC. Ça aussi, on l'a découvert aux États-Unis. Une étude qui a été faite à peu près au même moment dit 94% des décès liés à la COVID-19 impliquait au moins un problème de santé préexistant, donc comorbidité. Et en moyenne, ça en impliquait 2,9.
Quand même, hein.
Donc ça nous donne quand même une idée du fait que la grande majorité des gens qui sont décédés, l'immense majorité des gens qui sont décédés, et une grande partie des gens qui ont été hospitalisés, étaient des gens qui avaient un problème donc, de comorbidité. Ce qui veut dire que face aux infections, face aux épidémies, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux, pas seulement pour des raisons génétiques, mais on n'est pas tous égaux aussi, et peut-être surtout, à cause de notre état de santé général.
Raison de plus pour être en santé, hein, pour voilà. Tout faire pour se maintenir en santé.
Alors c'est pour ça qu'on a eu l'idée de cette émission, en se disant, bon, et si cet épisode de COVID-19 pouvait nous servir à quelque chose? Et si on pouvait en tirer quelque chose qui va nous aider pour la suite? Parce que, il faut quand même le dire, on a peu parlé pendant ces deux ans. On a peu parlé de prévention, on a peu parlé de ce qui pouvait nous aider. Peut-être que ce soir, c'est pour nous l'occasion de le faire. En faisant des changements informés, on pourrait les uns et les autres sortir de cette pandémie avec des outils pour être en meilleure santé et donc pour pouvoir mieux faire face au prochain virus, aux prochaines épidémies. Puis là,
c'est pas qu'on en souhaite.
Je regarde Daniel Starinski parce que je sais que vous allez nous dire que il faut s'attendre à en avoir d'autres.
Oui. Alors, c'est ça, exactement.
Ouais. Ouais. Alors, je m'arrête là pour mon introduction, mais je voulais un petit peu mettre la table, poser le décor pour qu'on sache où on va ce soir ensemble. J'aimerais maintenant m'adresser à vous, Daniel Starinski. Je vais aussi m'adresser à Dominique Noël, qui est avec nous par Zoom interposé. Si vous deviez, alors, en une phrase ou deux, me dire qu'est-ce qu'on a appris à travers cet épisode de Covid-19, qu'est-ce qu'on a appris, en particulier dans le domaine de la prévention, dans le domaine du style de vie, qui est vraiment important et puis qui a été mis en évidence par cette pandémie, Daniel Steinke?
Bien, dans une phrase, je pense que, comme vous venez de le dire, il faut comprendre que les épidémies sont là pour rester. Ça ne partira pas. Et donc, c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit pour la suite. Et le deuxième point, on a appris, enfin, il faut apprendre que le microbiote est la clé de l'immunité, donc de la capacité de lutter ou de faire face à ces infections-là.
Alors, moi, il y a
une question.
Oui, non.
Non, pas tout de suite,
la question. Ta question, c'est, mais qu'est-ce que c'est que le microbiote? Je pense voilà. que c'est un mot que beaucoup ne comprennent pas, mais ce n'est pas grave.
Mais on va en parler.
On va en parler dans un instant. Dominique, tu nous entends, tu es avec nous. Si tu devais, en une phrase ou deux, dire, selon toi, qu'est-ce qu'on a appris pendant cette période Covid-19 qu'il faut retenir?
Alors, il y a plusieurs expressions qui ont été populaires durant la pandémie, mais l'expression que j'aurais aimé entendre, c'est que la pandémie de la COVID, c'est une pandémie des comorbidités ou des maladies chroniques. Je pense que durant la pandémie, ça a été clair que, comme tu viens de le citer d'ailleurs, Rémi, que ceux qui vivaient avec une maladie chronique étaient beaucoup plus susceptibles de développer la forme sévère de la maladie. Mais la seconde chose qui est reliée d'ailleurs, c'est l'importance des habitudes de vie. Un thème qui est très associé également à ça, c'est le fait que beaucoup de gens connaissent les principes d'un style de vie sain, mais ne savent pas comment les appliquer ou se sentent débordés par la montagne à gravir lorsqu'il s'agit de mettre en pratique justement ces principes de santé saine. Moi, ce sont les deux vraiment grandes leçons que j'ai apprises de cette pandémie jusqu'à présent.
Merci pour ce résumé à tous les deux. Alors, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Et alors, je vais vous demander, je sais qu'il y a des études qui ont été faites pendant cette période Covid-19, des études justement qui sont en lien avec certains éléments du style de vie, avec certains nutriments ou autres. Daniel Steinke, vous en avez retenu quelques-unes de ces études?
Bien, disons que d'abord, c'est ça, c'est important de comprendre que la COVID, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est un continuum. Depuis le XXe siècle, on a eu 4 épidémies liées à des virus, en fait des coronavirus, et au XXIe siècle, c'est la même chose. On a déjà eu le MERS, enfin le SARS, la grippe aviaire, la grippe porcine. Tout ça, ce sont des épidémies enfin, qui ont eu lieu. Et tout d'un coup, la COVID a pris une importance extraordinaire. Mais ce n'est pas nouveau. Et pour beaucoup de gens, c'est quelque chose à laquelle il fallait s'attendre. C'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus, puis on ne sait pas d'où ça venait. C'est un continuum d'épidémies qui se poursuivent. Et il est très intéressant de voir que des études assez récentes lient ces épidémies à un style de vie, pas personnel comme tel en premier, mais un style de vie mondial. C'est-à-dire que nous sommes dans une économie où l'environnement est extrêmement ravagé par le désir justement de détruire des forêts pour faire des prairies. Et beaucoup de gens pointent l'élevage.
Oui, alors on a parlé du fait que, en cherchant les origines, en particulier de cette pandémie, ça pouvait être relié à un animal.
Donc l'élevage, c'est que on veut faire des prairies pour élever du bœuf ou de faire de l'élevage intensif. Et cette concentration d'animaux Et le contact avec les humains, aussi le fait qu'il y a énormément de déforestation, les animaux sauvages se rapprochent des humains, et il y a une communication qui fait que les virus passent de l'animal à un autre animal et finalement aux humains. Et j'entendais par exemple Boris Cyrulnik dire il y a quelque temps que finalement la solution globale à ces épidémies, ben, c'était de diminuer la consommation de viande et de diminuer ce désir de d'élevage intensif. Et c'est très spécial parce qu'on voit que des pays qui ont été végétariens, par exemple, ou semi-végétariens, pendant des millénaires, ont maintenant des élevages intensifs de porcs, de volailles, etc. Et donc, c'était un appel qu'il faisait, et dire « revenez à une alimentation plus simple ». Et deuxième point que les gens pointent aussi, c'est ce désir de bouger, de voyager.
Alors, j'allais dire, il y a le fait qu'aujourd'hui, il y ait des communications... Ouais.
C'est ça. Et puis, si on étudie entre historiquement, on dit qu'autrefois, il fallait à peu près 100 ans pour qu'un virus arrive à un village. Parce que le virus marchait à pied.
C'est vrai.
Les humains se déplaçaient à pied. Et on a eu des épidémies en France comme la peste parce qu'on a eu les croisades. Donc, des gens qui ont marché à pied, qui sont allés jusque dans les pays...
En Terre Sainte,
dans les pays du Sultan, qui sont revenus. Donc, le temps d'aller et de revenir, c'est énorme. Le virus arrive, il fait son ravage. Mais les épidémies se sont accélérées quand on a inventé le train. Il y a eu une épidémie russe qui a été liée au trans-sibérien. Puis il y a eu les transatlantiques qui ont transporté des épidémies de l'Europe à l'Amérique, de l'Amérique à l'Europe. Et maintenant, les virus voyagent à la vitesse de l'avion. Donc en 24 heures...
En 24 heures,
le monde entier peut être... Et donc, c'était un rappel ou un appel au retour, et c'est très surprenant, aux vacances qu'on passe chez grand-papa et grand-maman, au lieu d'aller au bout du monde.
Et parfois, grand-papa et grand-maman sont au bout du monde.
Oui, il y a ça aussi. Mais enfin, cette idée de rester chez soi, de retrouver des racines, et c'était vraiment un appel au secours, parce que le verdict est là, si les choses continuent à ce rythme-là, les épidémies vont se multiplier aussi parce qu'au XXe siècle, elles sont arrivées avec 10 ans d'intervalle. Au XXIe siècle, elles arrivent avec 3-4 ans d'intervalle.
Donc, on
prévoit une précipitation. 3-4 ans, ce n'est pas beaucoup pour sortir d'une chose pour aller dans une autre.
Alors, si c'est ça notre nouvelle réalité, et il y a des chances que ce soit ça... Qu'est-ce qu'on a pu apprendre dans cette pandémie de Covid-19 qui pourrait nous être utile pour mieux se prémunir?
Bien, disons que, comme je dis, il y a des préventions sociétaires, de société, puis il y a des préventions personnelles, voyez-vous. Donc, sur le plan social, c'est sûr qu'il faudrait espérer que tout le monde cesse de tellement vouloir... une agriculture, un élevage intensif. Il faudrait que tout le monde pense que rester ses choix, c'est pas si mal que ça, finalement. Mais enfin, il faudrait commencer, évidemment, individuellement. Donc, ça, c'est le premier point. On ne peut pas imposer ça aux autres. Mais en fait, si une personne après l'autre se met à vivre plus simplement... Enfin, c'est un appel à une simplification des habitudes alimentaires et une simplification aussi des relations humaines. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, évidemment, on peut parler de santé, mais je le ferai peut-être... vous voulez que je le fasse tout de suite
Alors, peut-être je vais donner la parole à Dominique.
Oui, c'est ça.
Dominique, je sais que toi, tu es quelqu'un qui épluche les études, les recherches qui sont faites. Est-ce que... Je crois que tu en as relevé quelques-unes qui sont pertinentes pour notre sujet de ce soir, à savoir, et si la Covid-19... pouvait devenir une occasion, une chance pour notre santé. Qu'est-ce qu'on a appris à travers ces études, Dominique?
Alors, la première chose que j'aimerais mentionner, c'est peut-être une déclaration qui a été faite après une méta-analyse. Ça a été publié en 2010 dans le Archives of Internal Medicine. Puis la conclusion des auteurs, c'est que il y a quatre facteurs de style de vie, soit l'abstinence du tabagisme, le maintien d'un poids santé, l'activité physique et une alimentation saine, qui ensemble sont associés à une réduction de l'ordre de 80% du risque de développer une maladie chronique. Alors ça, c'est un fait qui est très important parce que l'année passée, encore une fois, après une revue de la littérature, on est arrivé à la conclusion suivante, c'est que les individus souffrant d'une maladie chronique sont beaucoup plus susceptibles d'être hospitalisés ou d'avoir besoin de soins intensifs ou peut-être même de décéder malheureusement de la COVID. Alors, on voit ce lien important qui existe, encore une fois, puis on l'a mentionné d'entrée de jeu, mais je pense que c'est important de le mentionner encore une fois, qu'il y a un lien entre la maladie chronique et les formes sévères de cette infection.
Oui, c'est sûr.
Mais encore plus important, je pense, c'est le fait qu'on sache aujourd'hui qu'on peut réduire le risque de maladie chronique de 80 %. C'est une bonne nouvelle.
C'est énorme. C'est énorme.
J'aimerais vraiment que les auditeurs aujourd'hui s'accrochent justement à l'espoir qui est associé à cette statistique-là. Alors, de quoi on parle ici? Premièrement, Rémi, je me fie à toi pour me dire quand m'arrêter. Je pense que c'est important de se rappeler l'importance de la nutrition. Heureusement, il y a eu des chercheurs qui se sont penchés justement sur l'effet de la nutrition sur le risque de développer la maladie sévère. Alors, pourquoi est-ce que je précise à chaque fois maladie sévère? C'est parce que si la COVID produisait une maladie qui ressemble à un rhume, sans autres conséquences négatives, on n'en parlerait pas aujourd'hui. D'accord? Alors, c'est la maladie sévère qui nous inquiète parce qu'elle peut causer justement la mort, mais également elle peut surcharger notre système de santé. D'accord? Alors, cette étude-là, ce qu'elle a essayé d'évaluer, c'est justement le risque de développer la maladie modérée à grave. Et lorsqu'on regarde les gens qui ont une alimentation qui est riche en produits végétaux ou exclusivement issus de produits végétaux, on remarque une 72% de réduction potentielle du risque de développer la maladie grave due à la COVID. Alors ici, on ne parle pas d'un lien de cause à effet parce que c'était une étude, on appelle ça observational, on a observé une population, mais quand même, c'est une corrélation qui est extrêmement importante. Ils ont également eu l'intelligence d'aller regarder maintenant, lorsqu'on regarde l'augmentation des produits d'origine animale dans l'alimentation, quel était l'effet. Et ce qu'on voit chez ceux qui consomment une alimentation avec quand même beaucoup de produits d'origine végétale, mais à laquelle on ajoute du poisson, la réduction du risque demeure significative. On parle de 59 % maintenant. D'accord? Ils ont également observé une population qui choisissait d'adopter une alimentation de type faible en glucides. D'accord? C'est les différentes variantes de la diète keto. D'accord? Et ce qu'on a remarqué ici, dans cette population-là, c'est l'inverse.
Voilà.
On observe une augmentation du risque. D'accord?
Par rapport à la population moyenne, un régime de type cétogène avait augmenté les risques.
Avait augmenté les risques.
Ça, exactement. C'est très important de le dire, oui. Oui.
Puis, il y a différentes explications qui peuvent potentiellement expliquer cette observation-là. Entre autres, c'est que les régimes cétogènes, entre autres, c'est qu'ils causent beaucoup d'inflammation. Okay? Puis, je pense que un autre mot dont la population a été très... auquel la population a été très exposée, c'est justement le mot inflammation, Rémi. On sait que la forme sévère de la maladie est entreposée par une surcharge d'inflammation dans le corps. Puis lorsqu'on a une diète justement qui cause l'inflammation, ça vient juste empirer les choses. Alors, pour la nutrition, encore une fois, extrêmement important, les produits d'origine végétale, une alimentation qui inclut beaucoup de variétés de produits végétaux va significativement améliorer nos chances, si on est exposé à cette maladie-là ou à une autre pandémie, d'avoir un système immunitaire en mesure non seulement de mobiliser nos ressources internes, mais ne pas aller dans l'excès de la réponse immunitaire également.
Donc première clé, en quelque sorte, qu'on tire de cette étude dont tu nous fais mention, première clé, c'est de dire, plus on va avoir un régime alimentaire à base de végétaux, plus on a de chances d'avoir une bonne santé, donc une capacité de réponse immunitaire et moins d'inflammation. C'est ça la première conclusion de cette étude.
Oui, une réponse immunitaire robuste, mais également qui n'est pas excessive. Parce que les deux sont importants. On va avoir une réponse robuste, mais coordonnée. Le problème avec la tempête de cytokines ou la forme grave de la maladie, c'est que la réponse devient à un moment donné désordonnée.
Voilà, ça c'était une première étude. Je crois qu'il y en avait une deuxième que tu voulais aussi nous mentionner, qui était aussi significative, qui a été faite pendant cette période de pandémie et qui peut nous être utile.
Alors, c'est une étude sur le deuxième facteur de style de vie qui est très important, c'est l'activité physique. Alors, chez les personnes qui participent à une activité physique modérée, intense, régulièrement, ce qu'on observe, c'est une diminution du risque de 20 à 30. Alors, lorsqu'on combine les deux, encore une fois, on ne parle pas de relation de cause à effet. On voit une forte corrélation, mais il n'y a pas encore d'études randomisées qui ont été faites. Alors, on parle seulement de corrélation ici. Mais lorsqu'on regarde les deux, on se rend compte que notre style de vie peut avoir un effet énorme sur notre capacité à affronter de manière efficace ce type d'attaque contre notre corps.
Merci Dominique. Daniel Starienki, je pense que ce que vient de mentionner Dominique ne vous étonne pas.
Non, c'est sûr.
Et vous avez vous aussi relevé certaines études qui ont été faites pendant cette période de la pandémie, oui. Et qui mettent en évidence alors certaines vitamines en particulier, l'importance de certaines vitamines.
Oui, il y a ce facteur-là. C'est sûr qu'on a tout d'un coup découvert l'importance de la vitamine D. Pendant longtemps, on pensait que la vitamine D, c'était juste pour le rachitisme. Et donc, les doses, c'était comme 400 unités par jour, ça prévenait le rachitisme. Mais au XXIe siècle, on a découvert que la vitamine D avait un rôle infiniment plus large qu'un rôle osseux seulement. Et justement, c'est l'Académie nationale de médecine de France, Paris, qui a dit que la vitamine D jouait un rôle majeur dans l'expression de 900 gènes. Donc, s'il y a carence en vitamine D, ces gènes-là ne parlent pas, ils se taisent. Une expression, une façon de parler, n'est-ce pas? Donc, il disait que la vitamine D est la clé qui déverrouille la bibliothèque génétique. Et c'est pour ça qu'ils ont associé des niveaux insuffisants de vitamine D, par exemple, à un risque accru de cancer, plus que le fait de fumer. C'est assez étonnant.
Plus que le fait de fumer,
wow. Oui, ça c'est, j'ai la référence. D'ailleurs, dans mes blogs, je donne les références. Mais c'est assez surprenant. Tu dis, oh là là. Mais en fait, ils ont aussi trouvé que la vitamine D, optimalement, permettait une fabrication d'antibiotiques naturels, dits peptides antimicrobiens. Et c'est pour ça qu'à Paris, l'étude date de 22 mai 2020, ils ont commencé à soigner des cas de Covid extrêmes avec des injections d'énormes doses de vitamine D. Et ils ont eu d'excellents résultats.
De bons résultats en faisant ça.
Absolument. Et donc, c'est sûr que, si on veut parler de nous, si des doses massives peuvent sauver quelqu'un dans une crise extrême, l'importance pour nous, monsieur, madame, tout le monde, d'en avoir suffisamment tous les jours. Et vous verrez, si vous allez chez un médecin, maintenant, ils vont facilement vous recommander 1 000 à 5 000 unités par jour, suite à ces études et ces nouvelles connaissances. Donc, l'importance de la vitamine D est extrêmement importante pour le système immunitaire et pour...
Oui. Là, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants, Daniel Starienki, puis Dominique, sens-toi libre d'intervenir aussi sur ce sujet-là, parce que j'ai l'impression que le sujet de la vitamine D, ça commence à être connu, mais c'est encore méconnu. Il semblerait que beaucoup de gens parmi nous soient encore carencés en vitamine D.
Ben, disons que le raisonnement est simple. On dit que si quelqu'un est 20 minutes dehors au soleil, sa peau va fabriquer jusqu'à 15 000 unités de vitamine D en moins de 20 minutes. Donc, d'où cette notion, je veux dire que notre corps en fabrique énormément, rapidement. Donc, si on se contente juste de 400 unités par jour, c'est sûr que, et maintenant on le sait, ce n'est vraiment pas suffisant. Peut-être les gens qui sont le plus à danger, c'est pourquoi on a fortifié le lait, par exemple, avec la vitamine D, la margarine avec la vitamine D. Mais disons qu'un végétalien, quelqu'un qui ne consommerait aucun produit animal, pourrait être carencé, parce que, quoique maintenant, on fortifie aussi les laits végétaux, voyez-vous. Donc, et on vit dans un pays nordique, et on vit à l'intérieur. Le seul rayonnement qu'on a souvent, c'est celui des écrans. Ça ne donne pas de vitamine D, ça c'est sûr. Donc, la carence est... Et on sait aussi qu'il y a une relation entre la carence en vitamine D et certains troubles mentaux. Donc, la vitamine D est devenue une vitamine multi-effet, multidimensionnelle. Et beaucoup de gens, justement, insistent sur un dosage beaucoup plus élevé quotidien.
Parce que je me demandais, vous parlez de dosage quotidien. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille, une personne âgée, que son médecin lui donne une grosse quantité une fois par semaine seulement. Est-ce que c'est aussi bon?
Ben, probablement, parce que la vitamine D se stocke. Elle se stocke. Oui. Donc, mais c'est une notion, voyez-vous. Et la vitamine D, les carences sont mondiales, dit-on. Mmh. Parce qu'on dit qu'en Italie, il y a eu une épidémie de COVID très forte. Mais les gens en Italie, il fait chaud. Le midi, ils font la sieste. Et quand ils sont dehors, ils sont à l'ombre. Donc, ils ont trouvé aussi là des taux de vitamine D très faibles. Donc, c'est comme un problème...
Alors qu'on pouvait s'attendre à ce qu'un dans un pays comme l'Italie, très ensoleillé, les gens aient des taux de vitamine D plus importants.
Il y a aussi les habitudes vestimentaires. Dans certains pays, bon, on est trop déshabillé, mais dans d'autres, on est trop habillé. Donc, il n'y a pas assez de fabrication de vitamine D par la peau, voyez-vous. Parce que la vitamine D, finalement, c'est la vitamine du soleil.
Et ça m'avait frappé parce qu'en tout début de pandémie, je me souviens avoir entendu un médecin qui avait donné quelques conseils et qui avait dit s'il y a deux choses que je peux vous recommander alors qu'on fait face à cette pandémie de Covid-19, c'est un, si vous fumez, arrêtez de fumer. Ouais. Et deux, que... assurez-vous d'avoir une dose de vitamine D suffisante pour votre organisme.
Oui.
Dominique, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à la vitamine D?
Oui, alors, ce que j'ajouterais, c'est que la vitamine D, de plus en plus, on se rend compte qu'elle exerce une influence qui ressemble davantage à l'influence d'une hormone sur l'organisme. Comme Daniel l'expliquait, elle semble avoir un effet d'immunomodulation, comme une espèce de coordination du système immunitaire. C'est intéressant parce que la vitamine D a un effet qui est à la fois antioxydant et aussi anti-inflammatoire. Okay? Alors déjà, juste avec ces caractéristiques-là, on peut mieux comprendre pourquoi, dans plusieurs études, on semble voir justement un effet bénéfique de la vitamine D. Mais il faut admettre quand même qu'il y a encore beaucoup de choses à élucider avec cette molécule-là qui est très intéressante et qui semble effectivement avoir un effet qui va au-delà de notre système osseux. Alors, important de demander à notre médecin peut-être un dosage de la vitamine D pour voir où on en est et avoir une supplémentation qui est suffisante pour pouvoir bénéficier justement des effets de la vitamine D sur notre corps.
Tu viens de dire quelque chose, Dominique, qui me semble important. Tu viens de dire on peut demander à son médecin de faire les examens pour savoir quel est son taux de vitamine D, parce que semble-t-il, il y a beaucoup de gens qui sont, sans le savoir, déficients en vitamine D. Donc, il vaut mieux le savoir. Et à partir de là, il peut y avoir des suppléments à certains moments. Et puis, on parlait du soleil. Dominique, je ne me trompe pas, les gens qui ont la peau comme la tienne sont aussi des gens qui ont
en carence,
besoin encore plus.
Oui.
Tu nous dis un mot par rapport à ça?
Alors, Rémi, tu es télépathe à distance, Rémi.
Ah oui?
Alors, j'attendais une petite pause dans ta réponse pour glisser cette information-là. Alors, je te remercie. Effectivement, les personnes sont d'origine africaine ou caraïbienne doivent être particulièrement attentifs justement à cette information-là parce que il est plus difficile pour nous de justement synthétiser cette vitamine-là. Il nous faut une exposition au soleil plus intense et plus longue pour produire suffisamment de vitamine D. Alors, important, encore une fois, de faire un dosage et d'avoir une supplémentation qui est suffisante.
Merci de cette précision. On a parlé de vitamine D, Daniel Starinki, mais ce n'est pas la seule.
Bien, il y a des études de l'Université de Sherbrooke. J'ai essayé de trouver des études
de chez nous,
au Québec.
De chez nous. Il y a des choses qui se font aussi, pas juste ailleurs. Et puis, c'est le docteur François Lamontagne qui, lui, s'est arrêté à la vitamine C. Et il a dit que les personnes atteintes de la COVID, qui étaient en soins intensifs, avaient souvent des taux de vitamine C indétectables. Et certaines études disent que la carence subclinique en vitamine C est mondiale en ce moment. Puis là encore, on rentre dans nos magasins, il y a des fruits, des légumes, des étalages extraordinaires, et on sait que pour beaucoup de gens, ils n'en mangent pas.
Pas suffisamment, en tout cas.
Pas suffisamment, très peu. Et il y a certaines population qui, franchement, mange tout sauf des fruits. Mmh. Je connais des gens qui disent, moi, un fruit, pas de question. Donc, il y a une espèce de fierté à dire, moi, je ne mange pas ça. Donc, et ça encore, je veux dire, la vitamine C, pendant longtemps, on faisait des dosages pour éviter le scorbut, c'est-à-dire saignement des gencives, etc., etc. Mais là, encore aujourd'hui, on découvre que son influence est beaucoup plus vaste et donc les dosages aussi doivent être beaucoup plus élevés. Et donc, ça aussi, c'est extrêmement intéressant de voir que finalement, comme disait M. Noël, que les gens, finalement, ne savent pas quoi manger pour avoir la santé qu'ils recherchent.
Quand on parle de vitamine C, on revient finalement à ce que disait Dominique Noël, c'est-à-dire un régime avec beaucoup de végétaux, en particulier beaucoup de fruits, de légumes.
Oui, mais les végétaux...
C'est large.
Non, mais puis, beaucoup de gens ne visualisent pas.
Alors qu'est-ce que c'est, Daniel Starinki, les végétaux qui nous apportent de la vitamine C?
Ce sont les fruits, toute la variété des fruits. Enfin, les gens pensent aux oranges, mais en fait, il y a de la vitamine C dans tous les fruits, il y a de la vitamine C dans tous les légumes verts. Mais c'est qu'il faut en manger suffisamment.
C'est quelle quantité à peu près par jour?
La quantité, là encore, ça dépend de l'appétit et de tout ça. Mais quand même, c'est quand même un apport important qu'il faut faire.
Le guide alimentaire canadien dit que la moitié de votre assiette devrait être des fruits et des légumes.
Oui.
Donc, si déjà on s'en tenait à ça, ça serait déjà formidable.
C'est ça. Donc, mais les fruits coûtent cher, dit-on.
Oui.
Et puis, donc, c'est une rééducation du public qu'il faut faire. Ça serait le rôle, justement, de la santé publique de dire ça, voyez-vous.
On va peut-être y revenir tout à l'heure parce que je vois que dans les questions d'auditeurs qu'il y en a une qui est en lien avec ça. France, tu voulais dire quelque chose?
Oui, je voulais juste demander, est-ce que les suppléments, c'est aussi bon que si on les prend en aliments?
C'est une bouée de sauvetage, certainement.
OK.
Mais un fruit ne donne pas seulement de la vitamine C, il donne plein d'autres choses. Donc, je dirais que c'est beaucoup mieux de manger le fruit. Enfin,
parce que dans les suppléments, est-ce qu'il y a aussi d'autres ingrédients qui sont ajoutés?
Oui, mais les suppléments sont faits en laboratoire.
Oui, c'est ça. Hein?
Ils ne poussent pas sur les arêtes.
Ils peuvent être utiles, mais ils n'ont évidemment jamais la capacité des aliments.
Si on arrive au microbiote...
On y vient dans un instant.
C'est ça, alors allez-y.
Au microbiote. Ouais. Dominique, est-ce que tu nous dirais un mot sur la vitamine C? Je sais que c'est aussi quelque chose qui t'intéresse.
Oui, alors ce qu'il faut savoir sur la vitamine C, c'est que c'est une molécule qui est importante pour la première ligne de défense de notre système immunitaire. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système immunitaire a deux composantes. Il y a la réponse innée, la réponse acquise. La réponse innée, c'est c'est la première phase de la montée immunitaire contre un envahisseur. Et la vitamine C joue un rôle important, justement, dans cette mobilisation-là. OK? Alors, je ne peux que renchérir à ce que Daniel Starinki disait sur l'importance de la vitamine C parce qu'elle vient en effet fortifier cette première phase de notre réponse immunitaire.
Alors, je voudrais me tourner vers nos auditeurs maintenant et juste vous rappeler que nous sommes en direct en ce moment de cette émission, que vous pouvez intervenir, vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos questions. On parle, je le rappelle, on parle de ce thème et si la COVID-19 pouvait être une chance pour notre santé, autrement dit, si on pouvait en tirer des leçons qui vont nous aider à avoir une meilleure santé et éventuellement à faire face à de prochaines épidémies, puisqu'on nous disait tout à l'heure qu'il y en aura de toute façon. Vous pouvez poser vos questions, faire vos commentaires en nous écrivant à endirect@commercialilestecrit.tv ou nous envoyer un texto, un SMS au 438-764-7502. N'hésitez pas à le faire. J'ai déjà un certain nombre de questions ici et on va les prendre dans quelques instants. Mais je me tourne à nouveau vers vous, Daniela Starinki, parce que je sais qu'il y a quelque chose dont vous voulez nous parler. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez lâché ce mot bizarre, le microbiote. Qu'est-ce que c'est le microbiote?
Le microbiote, on dit en science que c'est notre deuxième cerveau. C'est aussi un système immunitaire extrêmement puissant, extrêmement important. Le microbiote, c'est jusqu'à 2 kilos de bactéries que nous avons dans le côlon, généralement, surtout.
Donc le microbiote, c'est dans notre intestin, en fait.
Oui, c'est ça. Surtout pas l'intestin grêle, mais plutôt l'intestin, le côlon, le gros intestin. Et ces bactéries, c'est un laboratoire vitaminique. Ces bactéries fabriquent à peu près toutes les vitamines, sauf la vitamine C, mais les vitamines B, en général. Ce sont des vitamines qui ont les bactéries. En fait, ces bactéries ont une influence extrêmement importante pour l'immunité. Et là encore, beaucoup d'études ont montré que les gens qui avaient la COVID et ceux qui ont une COVID longue sont des gens qui avaient ce qu'on appelle une dysbiose intestinale. C'est-à-dire que, leur population de bactéries intestinales n'est pas bonne. Elle est de la mauvaise qualité et elle est aussi très faible. En fait, un bon microbiote, c'est-à-dire une bonne population de bactéries intestinales, peut peser jusqu'à 2 kilos.
Wow, quand même.
Maintenant, pour répondre à la question des suppléments, c'est que ce qui nous donne un microbiote sain, ce sont les fibres. Maintenant, les fibres, c'est l'aliment entier. Donc, c'est le fruit entier, beaucoup plus que le jus. Mm-hmm. C'est l'aliment entier.
Ça peut être la céréale aussi.
Voilà. Et justement, le problème de notre société, c'est qu'on prend des jus de fruits, on ne prend pas les fruits, donc pas de fibres, et on mange raffiné.
Oui. Alors, quand
farine
on dit
blanche,
raffiné,
riz blanc, ouais, pâte blanche, pain blanc. Voilà.
Tout fait en usine.
Voilà, on a une alimentation urbaine industrielle. Entre le champ et la table, ben, on a passé ça par l'usine et ça nous arrive tout enveloppé en plastique. On met ça dans le four, puis finalement, on mange ce que les gens nous font manger. Mais il y a un dicton, en fait, très intéressant qui dit « Nous sommes ce que nous mangeons ». Tout le monde est d'accord avec ça. Ouais. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Nous sommes ce dont notre microbiote se nourrit. Mais il se nourrit de ce que nous mangeons. Donc, quand on ne mange pas de fibres, on détruit notre microbiote, on l'affame, on le rend... il manque de tout. Donc, il se dégrade et les bactéries malsaines se multiplient. Les bactéries saines diminuent, donc on appelle ça une dysbiose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'équilibre de bactéries saines et de population de bactéries saines. Et le deuxième point qu'il est important, c'est qu'on mange énormément de produits animaux. Donc les produits végétaux qu'on mange sont raffinés, donc la plupart du temps les fibres ont été éliminées d'une manière ou d'une autre et dans des quantités différentes. Et on mange énormément de produits animaux. Mais les produits animaux, c'est zéro fibre.
Oui, c'est ça.
Le sucre, c'est zéro fibre. Et les huiles, les graisses, c'est zéro fibre. Donc, quand on regarde une assiette, ben, le taux de fibres est très faible. Et à ce moment-là, il faut penser à son microbiote. Et c'est d'ailleurs une équipe de l'Université Laval de Québec, je suis très fière de ça, qui a montré justement qu'on tue notre microbiote en ne mangeant pas les fibres. Et ce microbiote, c'est lui justement qui nous permet une immunité saine. Donc, c'est très important. Mais qui a aussi, comme on dit, c'est notre deuxième cerveau qui fabrique aussi de la sérotonine et qui a, entre le cerveau et le microbiote, il y a des liens bidirectionnels. Notre cerveau influence notre microbiote influence notre cerveau. Donc, beaucoup de maladies mentales, de dépression liée à un microbiote qui est en train de mourir de faim.
Wow. Donc, si on veut avoir une meilleure santé et si on veut avoir un bon système immunitaire, il faut prendre soin du microbiote. Et pour prendre soin du microbiote, j'essaie de résumer ce que vous avez dit.
Oui.
Il faut manger des fibres. Et les fibres, alors on va essayer d'être pratico-pratique. Les fibres, on les trouve dans les fruits, les légumes,
les céréales, les légumineuses, les noix, les graines. Donc tout ce qui est entier,
tout ce qui est végétal.
Mais on parle toujours d'aliments complets, entiers.
Oui, parce que le raffinage et l'usine détruisent les fibres. Détruit. Ils les éliminent. Ouais. Donc, on mange mou, on mange blanc, ouais. Et on mange protéines animales. Et les protéines animales n'ont pas de fibres. Et donc, comme je dis, notre pauvre microbiote,
Et quand on parle de microbiote, puis on parle de probiotiques, c'est la même chose? Parce qu'on est habitué d'entendre probiotiques.
Bon, probiotiques, en fait, les végétaux sont des prébiotiques. C'est-à-dire, ce sont les prébiotiques. Les probiotiques, c'est ce qu'on fabrique aussi en laboratoire. C'est des bactéries qu'on utilise pour supplémenter un microbiote. Mais en fait, c'est une deuxième ligne de conduite. La première, c'est de manger.
D'avoir des prébiotiques. Merci pour cette explication intéressante.
Un dernier commentaire sur le microbiote.
Certainement
pour boucler la boucle. Le microbiote joue également un rôle au niveau de l'inflammation. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit inflammation aujourd'hui.
Définitivement.
alors, il y a plusieurs études qui montrent effectivement qu'il y a un lien entre justement le microbiote et des maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, la sclérose en plaques, le diabète.
Absolument.
Également d'autres maladies inflammatoires plus cardiovasculaires. Alors, c'est important justement de se rendre compte que même si ce n'est pas un thème avec lequel on est familier, d'accord, c'est important de s'éduquer là-dessus parce que le moyen justement d'améliorer la population bactérienne qu'on a dans notre côlon, c'est très simple. Okay? C'est suivre le régime canadien pour manger sainement et simplement en ayant la moitié de ce qu'on mange chaque jour qui est issu de produits végétaux, on améliore justement la qualité de notre microbiote et notre santé globale.
Et d'où, si je peux ajouter, la tragédie du régime cétogène qui a été une mode. C'est un régime...
Qui est encore très à la mode.
C'est-à-dire?
C'est un régime zéro fibre, parce que c'est que des produits animaux et du gras. Mm-hmm. Et donc, les produits glucides, c'est 2-3%. Mm-hmm. Donc, c'est un régime pour tuer son microbiote. Mm-hmm.
France, tu voulais dire quelque chose?
Oui, bien, étant donné qu'on est dans « Il est écrit », quand j'écoute tout ce que vous dites, moi, ce que je trouve, c'est que l'appel, c'est de revenir à ce que Dieu a créé. Hein, revenir à la nature, revenir aux éléments de base, dans leur simplicité, dans la forme la plus naturelle possible. Moi, c'est ce que je retiens, du moins.
Tu te souviens de la Genèse qui dit... Dieu dit à l'homme quel sera son régime alimentaire et il parle de fruits et d'herbes portant sa semence. Voilà. On est en plein dans le sujet.
Oui, il y a une chose que j'ai appris, c'est comme je disais avant qu'on commence l'émission, je ne suis pas une spécialiste, mais ce que j'entends, je le mets en pratique, puis c'est simple. Puis j'ai compris que pour avoir une bonne alimentation, il faut prendre les aliments le plus proches de ce qu'ils sont naturellement.
Hein? Oui, du champ à l'assiette.
Voilà.
Mais ça demande aussi un nouveau style de vie.
Oui.
Absolument.
C'est une rééducation. Hein?
Un peu ce qui s'est fait pendant la COVID, il faut se remettre à cuisiner, à popoter.
c'est vrai. Farine entière, cependant. Pas blanche.
Ah, il faut plus vous mangez fibreux,
mieux
plus
ça
votre microbiote va
donner la santé.
À être en santé, voyez-vous. Donc, et il va bien nous servir.
Pardon. Dominique, je te donne la parole. Ensuite, on va prendre les questions. J'ai plusieurs questions là, qui sont présentes. Je ne sais pas si on pourra répondre à tout, mais on va faire de notre mieux. Dominique, avant de prendre les questions, tu voulais, toi, nous parler aussi de quelque chose qui te tient bien à cœur par rapport, justement, à notre santé générale et à notre santé immunitaire.
Alors, peut-être deux commentaires. Le premier, c'est sur un facteur qui semble évident, mais qu'on néglige trop souvent. C'est le sommeil. C'est impossible d'avoir un système immunitaire fort si on ne se repose pas suffisamment. Un manque de sommeil va causer une espèce de paralysie au niveau de la communication entre les cellules immunitaires. Ça va diminuer l'efficacité des cellules tueuses qu'on a parmi les cellules immunitaires. Vous savez, on a une espèce de SWAT ou tueur d'élite parmi les soldats qui viennent éliminer les envahisseurs. Mais lorsqu'on ne dort pas suffisamment, justement, eux, ils sont engourdis, ils n'ont pas entendu l'alarme sonner. OK? Alors, c'est important de se reposer pour cette raison-là. Il y a une étude qui a été faite par le Dr. Prather. On peut lire ça dans le Infectious Medicine Journal. Et ce qu'il a trouvé, en fait, c'est que c'est une petite étude. C'est sûr qu'on ne peut pas faire de lien de cause à effet avec une étude avec un si faible échantillon. Mais quand même, des sujets sains universitaires, parmi eux, la moitié ont dormi moins de 5 heures, l'autre moitié a dormi au moins 7 heures. Et avant le début de l'expérience, on les a inoculés avec le rhinovirus. Alors, ce n'est pas le coronavirus, c'est un virus qui cause un rhume. Et imaginez-vous que 50% des sujets qui ont dormi moins de 5 heures ont développé le rhume, alors que seulement 18% de ceux qui ont dormi moins de au moins 7 heures ont développé la maladie. Alors, juste avec cette petite expérience, on peut voir justement l'impact puissant qui vient avec un sommeil qui est suffisant.
Donc, on rajoute à notre panoplie. Alors, je te donne la parole tout de suite, Dominique, mais j'essaie de résumer ce qu'on a dit, parce que pour nos auditeurs, ce qui est important, c'est qu'on soit pratique. On a dit une alimentation le plus possible végétale, et Daniel, vous avez, il y a quelques instants, expliqué en particulier pourquoi. Ce n'est pas la seule raison, mais une des grandes raisons, c'est ce fameux microbiote. On a dit également l'importance de l'exercice physique régulier. Les études qui, pendant la période Covid, ont montré l'importance de cela. On a dit également s'assurer d'avoir vitamine D et vitamine C.
Oui. On pourrait parler du zinc aussi.
Oui, on pourrait parler aussi, On pourrait parler de beaucoup de choses. On est obligé de se limiter un petit peu. Et tu viens de rajouter la panoplie ici, Dominique, l'importance du sommeil. D'autant plus importante que, d'après certaines études, on dort moins aujourd'hui que ne dormaient nos aïeux. Faut dire qu'on a...
Avec le soleil, il se levait
voilà,
avec le soleil.
Voilà, on a la lumière artificielle, on a la télévision, l'Internet, etc. Donc, importance d'au moins 7 heures de sommeil. Et je crois, Dominique, que tu voulais rajouter quelque chose à cette panoplie d'outils.
Alors, à cette panoplie d'outils, moi, j'aimerais ajouter simplement le en anglais, on dit « action planning », alors un plan d'action. Parce que c'est bien beau de mentionner toutes ces stratégies, mais comment est-ce qu'on les met en pratique? Et je trouve qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de personnes qui se sentent complètement perdues. Par où est-ce que je commence?
Est-ce que je peux te couper, Dominique? Parce que je vais te donner la parole, mais tu vas continuer en ayant en tête la question que nous a posée Pascal. Alors, Pascal, c'est quelqu'un qui a envoyé une question, là, que j'ai sous les yeux. Et je lis la question. J'ai un problème de surpoids. Je suis diabétique et je fais de la haute pression. Je sais que je dois changer mon alimentation et faire de l'exercice, mais je n'ai pas la force ni la motivation. Que faire?
Alors, excellente question. La première chose que j'aimerais dire à cette personne-là, c'est qu'elle n'est pas seule. Ah. Et qu'effectivement, les changements pour améliorer notre santé sont quand même des changements qui sont importants et difficiles à implanter. C'est pour ça qu'il faut avoir un plan, OK? Alors, moi, ce que je recommanderais à cette personne, c'est commencer avec un repas. Commencer avec un seul repas. Mm-hmm. Ou commencer avec seulement une marche de 20 minutes par jour. Mm-hmm. seulement ça. N'essayez pas de tout mettre en pratique en même temps. Parce que l'important, c'est de se rappeler que les petits changements que nous faisons chaque jour, ils s'additionnent pour ensuite emmener un grand changement exponentiel. L'important, c'est de commencer, maîtriser le premier changement qu'on a implanté et passer au suivant. D'accord? Si vous arrivez à faire cela régulièrement, un certain temps va se passer, vous allez regarder en arrière, vous allez voir que vous êtes au haut de la montagne.
Alors, par exemple, Dominique, à Pascal, on pourrait lui dire quoi? Changer son déjeuner?
Moi, j'irai avec le souper.
Avec le souper.
Alors, je vous explique pourquoi. Alors, le souper, c'est historiquement, par tradition, le repas qui est le plus lourd dans la journée, pour des raisons sociales. Mais lorsqu'on regarde au niveau métabolique, ça fait aucun sens, d'accord? Alors, lorsqu'on se réveille, on commence notre journée, on est actif durant tout l'avant-midi, on mange au niveau du repas du midi, ensuite, on demeure actif pour le reste de l'après-midi. Au souper, on mange notre plus gros repas, puis après le repas, on s'assoit devant la télévision, puis on va se coucher par la suite. Ça fait aucun
sens. On continue à grignoter.
En fait, il faut prendre un déjeuner de roi, un dîner de prince et un souper de pauvre.
Exact. Alors, moi, ce que je recommanderais, c'est de commencer avec le souper. Et le souper devrait être un repas où il devrait y avoir une énorme, énorme quantité de légumes. OK? Moi, ce que je dis souvent à mes patients qui me posent des questions au niveau de leur poids, je leur dis, votre souper devrait être variété de salades. S'il vous plaît, ne mangez pas la même salade chaque jour, vous allez me détester. D'accord? Ayez une énorme quantité de recettes de salades. Mangez-en une par jour, mais une grosse quantité, parce que les légumes sont, au niveau calorique, très dilués. C'est très dilué en calories, les légumes. D'accord? Alors, vous pouvez manger d'énormes quantités de légumes et ils sont tellement riches en fibres qu'avec l'eau qu'ils contiennent, votre estomac va très rapidement vous donner un signal de satiété.
Voilà.
D'accord? Alors, on y va avec une belle grosse salade avec beaucoup de variétés de légumes et un gros bol de soupe aux légumes également.
Bravo.
Et ça, c'est votre souper. D'accord? En faisant ça, ce qui arrive, c'est qu'on ingère tous les merveilleux nutriments dont on a parlé aujourd'hui. On renforce le système immunitaire, mais également, juste en faisant ça, il y a une perte de poids qui est accompagnée à ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de calories qui sont ingérées au niveau du repas du soir. Alors moi, ce serait ça ma première recommandation. Et ensuite, on passe à un autre repas. Vous voyez, mais il faut y aller étape par étape et résister à la tentation de penser que c'est du tout ou rien. Si je ne peux pas tout faire, ben je ne ferai rien. Non, on peut y aller étape par étape et bénéficier des choix, petits choix que nous faisons chaque jour pour améliorer notre santé.
Donc, il faut pas hésiter à y aller graduellement, mais avec persévérance. Pour l'exercice, tu parlais de 20 minutes par jour de marche rapide. C'est déjà un bon début?
C'est déjà un bon début et par la suite, on augmente l'intensité et la durée.
Merci pour cet encouragement que nous transmettons à Pascal et à peut-être tous ceux qui se reconnaissent en Pascal. Je vais passer à une autre question. Je vais me tourner vers Daniel Starinki. Vous parlez de microbiote. Est-ce qu'on peut les reproduire? Alors, j'imagine qu'il parle des bactéries. Si on en a moins, est-ce qu'il y a une manière de se refaire des bactéries, de refaire ces bactéries?
Disons, ce qu'il faut, c'est les nourrir. Donc, si on se met à manger des végétaux, les grosses salades dont M. Noël parle, les soupes de légumes, tout de suite, elles vont se refaire. Et puis, c'est très rapide. Notre corps est fait pour vivre. Ouais, dès qu'on lui donne le moindre moyen de faire les choses bien, il n'hésite pas tout de suite, il se remet, tout de suite il revient, tout de suite il se régénère. Donc oui, il faut penser à ne pas manger juste pour nous, mais de manger pour nos bactéries.
On va nourrir nos petites bactéries intestinales.
Il faut cesser d'être égoïste. On mange pour deux au moins, en tout cas. Et notre microbiote, c'est des 100 000 milliards de bactéries, s'il est sain.
C'est énorme, oui.
Donc, ils ont besoin de beaucoup de fibres. Donc, c'est juste penser à ces petites bibittes-là, être gentil avec elles, puis leur donner ce dont elles ont besoin.
Je vais passer à une autre question. On en a quand même beaucoup, donc je passe assez rapidement sur les questions. La suivante dit « Voici ma question. J'ai eu de mauvaises habitudes alimentaires et j'ai donc des comorbidités. » La personne ne précise pas quelles comorbidités. « Ayant des symptômes de la COVID-19, que me faut-il faire pour passer au travers ?» Dominique, tu veux prendre cette question-là?
Oui, bien sûr. Alors, d'abord, la première chose que je veux mentionner, c'est que c'est si la personne présentement a des symptômes qui correspondent à des drapeaux rouges, il faut aller consulter à l'urgence. Okay? Alors, on parle ici de douleurs à la poitrine, et la dyspnée ou la difficulté à respirer, s'il vous plaît, ne minimisez pas ces symptômes-là, allez vous faire évaluer à l'urgence ou par votre médecin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on développe des symptômes de la COVID? Alors, je vais commencer par le repos, OK? S'il vous plaît, reposez-vous, OK? Ce n'est pas le moment de commencer à s'entraîner pour un marathon, d'accord? Ce n'est pas le moment de brûler la chandelle par les deux bouts. Il faut absolument se reposer, d'accord? Deuxième chose, c'est avoir une alimentation qui est riche en nutriments, d'accord? On a parlé durant cette émission beaucoup de différents types de nutriments et la seul type d'alimentation qui soit riche en nutriments, c'est une alimentation qui est basée sur des produits d'origine végétale.
C'est ça.
Alors, je vous invite ardemment à prendre la décision d'augmenter significativement la quantité de fruits et de légumes que vous consommez chaque jour. Extrêmement important. L'autre chose, c'est, comme on l'a mentionné aujourd'hui, considérer sérieusement d'ajouter à votre routine la prise d'un supplément de vitamine D, okay? Pour aider votre système immunitaire. Et l'autre chose également, surtout avec les beaux jours qui commencent avec le printemps, c'est l'exposition à la lumière. OK? Parce que on apprend tout récemment, c'est une étude qui a été publiée à la fin des années de 2021, que au-delà du rôle de la vitamine D, la lumière infrarouge proche, d'accord? C'est cette composante lumineuse-là qui vient stimuler nos thermorécepteurs sur la peau. C'est la lumière infrarouge proche qui nous donne la sensation de chaleur. Alors, cette onde lumineuse-là, elle traverse la peau pour aller stimuler l'usine à énergie dans nos cellules qui s'appelle la mitochondrie. D'accord? Or, cette mitochondrie-là, c'est la pile de la cellule. OK? C'est l'usine à énergie. Mais cette usine à énergie-là qui roule à full pin durant une infection de l'organisme, elle vient également produire beaucoup de radicaux libres. OK? Ça, ce sont les déchets métaboliques. OK? Déchets métaboliques sont aussi associés au stress oxydatif, d'accord? Et à l'inflammation. Mais dans la mitochondrie, il y a également, et moi je pense que c'est divin ça, cette ingénierie-là, il y a un système de nettoyage. Okay? On sait aujourd'hui que l'endroit où il y a le plus de production de mélatonine, c'est en fait au niveau de la mitochondrie. D'accord? Alors, cette mélatonine-là est un important antioxydant également. Alors, on sait maintenant que lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'exposition à cet antioxydant-là, il y a une augmentation du risque de maladies sévères. Alors moi, je vais vous inviter, alors que les beaux jours débutent, qu'il faut absolument penser à s'exposer justement à la lumière pour bénéficier des effets profonds cellulaires que la lumière infrarouge proche peut amener à nos cellules.
On va retenir ça. Je ne suis pas sûr que notre auditeur ou notre auditrice ait retenu toutes les histoires de mitochondries, mais c'était intéressant. Mais en tout cas, on va retenir que on a intérêt, grand intérêt, à sortir, à être à l'extérieur, à avoir la lumière du jour, à sortir de nos studios.
Juste pour la santé mentale aussi, parce que la santé mentale, c'est aussi quelque chose d'important. La COVID a beaucoup atteint les gens
absolument.
Mentalement.
Absolument.
Enfin, il se disait au 20e siècle que la vie est enfant du soleil.
C'est une belle formule.
Ouais. Il faut le garder à l'esprit.
C'est une belle formule. Ouais. Et comme on arrive bientôt au printemps, c'est le moment. Ouais. C'est le moment de sortir. Je prends une autre question ici qui a peut-être un lien. Vous allez me dire, je suis végétarienne. Je m'alimente très bien, je fais de l'exercice tous les jours et j'ai attrapé la Covid pendant la première vague. C'est quoi que j'ai fait de pas correct?
Oh, ben non, c'est... Ben, je dirais que c'est pas dire pas correct. Je veux dire, si elle l'a attrapé, elle est encore en vie, probablement, elle a pu passer.
Pour pouvoir nous écrire, absolument, oui.
Donc,
elle a gagné le temps en combat.
C'est ça. Une infection, c'est une infection.
Ouais.
Alors, ça, c'est quand même important de dire.
On n'est pas à l'abri, hein.
On peut avoir la meilleure hygiène de vie, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas infecté.
C'est ça.
Oui, mais on ne va pas en mourir, nécessairement.
Ouais,
on n'aura pas des séquelles. Je veux dire, ça va être plus léger. Et même, ça peut être dur, parce que finalement. Il n'y a pas juste le physique, mais souvent, il y a aussi le mental.
Oui.
Il ne faut pas oublier, je veux dire, on peut manger très bien, on peut faire tout très bien, mais avoir subi des traumatismes, être en chagrin, avoir des chagrins, avoir...
Tout ça joue sur notre système immunitaire aussi.
Ça joue sur le système immunitaire. Le système immunitaire est aussi très sensible.
C'est vrai.
À notre...
C'est indissociable, hein, c'est le
ça,
mental et le physique.
À notre esprit. Donc, la façon dont on pense, une personne pessimiste, une personne anxieuse, elle peut très, très bien manger, mais ça ne donnera pas 100% de bons résultats. Puis en plus, il ne faut pas oublier, on est sur Terre.
Voilà, on est encore dans un monde de virus.
On est dans un monde où tout le monde peut tomber malade, quoi qu'il fasse.
Absolument.
Mais je pense qu'il est très important de toujours bien faire, justement pour pouvoir avoir la meilleure lutte possible.
La meilleure santé possible.
Parce que finalement, le virus, il peut être faible, mais il peut être parfois plus fort que nous.
Mm-hmm. Absolument. Absolument. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, ce qui est important, c'est que en ayant une bonne hygiène de vie, on ne sera pas forcément immunisé contre le fait d'attraper la maladie, mais on sera plus fort pour y résister.
C'est ça. On se donne des bonnes chances quand même.
Absolument. Absolument. Une question que je vais envoyer à Dominique. Est-ce qu'on peut... C'est Marilyn qui nous pose la question. Marilyn nous demande, est-ce qu'on peut considérer qu'avoir eu la COVID-19 nous rend plus forts pour affronter éventuellement un autre variant du virus, ou est-ce que ça n'a pas de rapport?
Alors, le fait d'avoir développé l'infection, d'avoir attrapé l'infection, va causer une stimulation de notre système immunitaire, une mobilisation de nos ressources immunitaires, et ça va avoir un effet effectivement bénéfique sur notre capacité à affronter efficacement une autre rencontre avec un virus ou variant de cette famille de virus-là. D'accord? Alors, la réponse à la question, c'est oui, ça vous rend plus résistant. Maintenant, à quel point, ça va dépendre du type de virus, mais oui, ça vous confère une immunité qui est significative, effectivement.
Donc, ceux qui ont développé la maladie, dont je fais partie d'ailleurs, peuvent considérer que c'est quand même un plus, un atout pour faire face à une prochaine vague, par exemple.
Définitivement un atout, effectivement.
Ok, oui. Ok. Je vais prendre ici une autre question. Peut-être, je vais me retourner vers Daniel Steinke, puis Dominique pourra compléter. Pour les gens qui font la COVID longue, est-ce qu'il y a des éléments naturels qui peuvent aider à s'en sortir?
Bien justement, j'ai écrit un blog il y a 2 semaines. Le titre était justement « La COVID longue ». Et ces auteurs-là parlaient de dysbiose du microbiote chez les gens qui avaient eu la COVID et qui avaient une COVID longue. C'est-à-dire qu'ils avaient un microbiote en mauvais état, ils ont fait l'infection, ils n'ont pas changé de style de vie, donc le microbiote ne s'est pas amélioré. Et c'est ce qui fait que les symptômes se prolongent. Donc, j'ai titré ce blog « Le microbiote, c'est la sortie du tunnel lors de la COVID longue ». Donc là encore, on revient finalement à nos données de base. C'est qu'on ne peut pas insulter notre corps indéfiniment. On est créé pour manger d'une certaine façon. Et en fait, l'alimentation urbaine industrielle a créé, elle est arrivée, l'alimentation urbaine industrielle dans les années 1950.
Après la guerre.
Après la guerre.
Guerre.
Et on
mondiale.
Dit que les baby boomers, c'est les générations qui ont servi de cochons d'Inde. En fait, De cobayes. Et les statistiques sont affreuses, parce que les baby-boomers, ce sont eux qui ont des comorbidités énormes. Et je lisais des statistiques, un baby-boomer sur deux, crise cardiaque, cancer, un sur trois diabète, obésité, problème cardiaque. Enfin, c'est cette génération-là qui a tout ça. Et comme Dominique Noël disait, c'est vous qui le disiez au début, les gens n'ont pas une comorbidité, ils peuvent en avoir deux et trois et quatre.
Oui, c'est ça.
Donc, d'où ça vient, ça? Ça ne vient pas de l'air. Les microbes, oui, mais pas ces problèmes-là, parce qu'on appelle ça des maladies non transmissibles. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a attrapé, c'est quelque chose qu'on a fabriqué.
Ouais, on s'est rendu malade.
C'est ça. Donc, il faut revenir à une alimentation paysanne agricole.
Donc, pour les gens qui font la COVID longue, c'est ça notre question de départ, leur recommander donc de manger des fibres?
Il faut
nourrir le microbiote.
Nourrir le microbiote.
Dominique, quelque chose à rajouter sur cette question-là?
Peut-être brièvement expliquer le calvaire par lequel passent les personnes qui ont la COVID longue. On parle souvent de démangeaisons, de problèmes au niveau visuel, perte de l'odorat, du goût, problèmes respiratoires, problèmes digestifs. Alors, on voit ici, juste dans la liste de symptômes que je viens d'énumérer, que tous les systèmes presque sont affectés par la COVID longue. Puis, maintenant, au niveau de l'étiologie ou de l'origine de cette pathologie-là, il y a encore beaucoup de recherches là-dessus parce qu'on n'est pas sûr. Mais ce qui ressort, c'est que ça semble résulter de dommages à long terme au niveau de ces systèmes-là causés par des débris viraux. Il y a comme une espèce de persistance de matériel viral dans l'organisme, dans plusieurs organes. Okay? Ce qui vient causer, ça c'est l'hypothèse d'après ce que j'ai lu qui est la plus courante, ça vient causer l'activation d'un type de cellules qu'on appelle des mastocytes. Okay? Les mastocytes sont un groupe cellulaire qui fait partie de notre réponse innée, c'est-à-dire la première ligne de la ligne de défense. Alors ils sont hyper réactifs à ces débris viraux-là, puis causent, devinez quoi, de l'inflammation. Okay? Alors, cette inflammation-là, il faut la gérer, d'accord? Et comme on vient de le citer, là, il faut utiliser les atouts que nous avons sur ce qui est accessible pour diminuer le plus possible l'inflammation qui est présente dans notre organisme. Et l'un de ces moyens-là, c'est bien sûr l'alimentation, mais également le repos. Je reviens sur le repos parce que c'est extrêmement important. Beaucoup de gens minimisent l'importance du repos. Alors, moi, j'encourage encore une fois l'auditrice à faire une évaluation de son alimentation et faire les changements nécessaires. Et également, si elle observe de nouveaux symptômes, une détérioration de son état général, de ne pas oublier de parler avec son médecin, parce qu'il pourrait y avoir d'autres causes à ces symptômes.
France, tu voulais dire quelque chose?
Je pense aux aliments antioxydants. Est-ce que c'est important d'en prendre? Est-ce que ça peut aider?
Les antioxydants sont normalement dans les fruits et les légumes. C'est une partie intégrale des aliments. Donc, quand on dit manger fruits, légumes, alimentation végétale, ben, ça inclut tout ça. Je veux dire, la science, comment dirais-je, fait de la dissection alimentaire. Mm-hmm. Il y a de la vitamine C, il y a des antioxydants, il y a ci, il y a ça. Mais, et puis après, on fait des pilules, puis on les prend de façon séparée. Ouais. Mais si on prend l'aliment, on a tout ça en même
dedans.
Temps. Tout est là.
D'accord. Merci.
On ne veut pas être trop long. Le temps passe. Mais il y a encore une ou deux questions que j'aimerais vous poser. Si vous avez encore une question à nous poser, envoyez-la maintenant parce qu'on arrive vers la fin de notre émission. Ici, j'ai une question qui peut-être a un lien avec celle qu'on vient de voir. Quand on a perdu l'odorat et ou le goût, est-ce qu'il y a des éléments naturels qui peuvent aider à ce que ça revienne?
Ben, il y a le zinc. On dit que la perte d'odorat et de goût est liée souvent à une carence en zinc.
Donc, une supplémentation en zinc pourrait éventuellement aider?
Ben, il y a des études qui parlent de cela. Et mais là encore, on dit que le zinc est un oligo-élément qui est immunitaire, qui a un rôle immunitaire. Et on dit aussi qu'il y a des carences énormes en zinc dans la société parce que finalement... On ne mange pas de céréales complètes, on ne mange pas de noix, on ne mange pas de graines. Donc, finalement, on revient toujours à la même chose. Mm-hmm. Je veux dire, on se crée des problèmes énormes en ne mangeant pas ce qu'il faut manger. mais il y a d'autres causes et certainement Dominique.
Dominique, quelque chose à dire sur cette question de la perte du goût et de l'odorat?
En fait, la perte du goût et de l'odorat, ce sont des symptômes qui rentrent dans le syndrome de la COVID longue.
D'accord.
Alors, les recommandations sont c'est ce qu'on vient de citer il y a pas si longtemps. Alors, moi, j'aimerais juste, encore une fois, mettre l'emphase sur un système de style de vie qui soit sain. C'est vraiment les recommandations qu'on a faites jusqu'à présent.
J'ai encore une question ici que je vais prendre. Bon, elle est peut-être un petit peu délicate, mais je vais quand même la poser. Pourquoi, à votre avis, nos gouvernements et nos services de santé en font-ils aussi peu pour la prévention?
Bon, c'est dommage. Moi, je trouve ça tellement dommage qu'il n'y ait pas eu de prévention puis d'information pour préserver notre santé comme on le fait ce soir.
Dominique, ça m'intéresse parce que toi, tu travailles dans le système de santé. Même si tu es en Ontario, c'est le système de santé au Canada. Qu'est-ce que tu réponds à la question de cet auditeur ou auditrice, je ne sais pas? Pourquoi est-ce que nos gouvernements, nos services de santé n'en font pas beaucoup, ça semble vrai, dans le domaine de la prévention?
Alors, pour moi, d'abord, j'aimerais dire qu'elle a raison. On a un système de gestion de la maladie, pas d'un système de santé. Alors, ça, c'est la première chose qu'on doit constater. C'est que c'est un système de gestion de la maladie qu'on a. Okay? Deuxième chose, c'est que lorsqu'un produit pharmaceutique a le potentiel d'améliorer la santé, ça vient avec un potentiel de gain économique, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, les études randomisées pour justement justifier la prescription, la recommandation de ce produit, si bien sûr les résultats sont probants, ces études-là coûtent très cher, OK? Mais comme il y a un gain économique qui vient après, alors ça vaut la peine d'y aller parce que les producteurs pharmaceutiques vont tirer pour leur argent, n'est-ce pas? Alors, ça fonctionnerait, ça ne fonctionne pas avec le brocoli, d'accord?
On ne peut pas breveter le brocoli,
on ne peut pas breveter les bleuets, ni les oignons, d'accord? Alors, il y a moins d'appétit pour ce type d'études randomisées, comprenez? Moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a une étude randomisée qui a été faite sur le style de vie végétalien. Une étude randomisée. On a parlé d'études rétrospectives jusqu'à présent, aujourd'hui, durant l'émission, mais études randomisées, ce serait pas éthique, d'accord? Mais une étude randomisée sur un style de vie végétalien, il n'y a personne qui est intéressé à financer ça parce qu'il n'y a pas de profit à faire là-dessus. Vous comprenez? Alors, et le gouvernement, comme vous le savez, se base sur les études probantes pour faire des recommandations. OK? Maintenant, grâce aux études rétrospectives, on a des informations qui nous permettent de recommander. Plusieurs médecins recommandent un style de vie sain. Mais c'est pas fait de manière assez forte. Et la raison pourquoi, d'après moi, c'est pas fait avec assez d'insistance, c'est parce que les études manquent encore. Et c'est un problème qui est systémique. OK? Il n'y a pas de volonté vraiment à faire ces études-là parce que l'argent n'est pas là. Mm-hmm. C'est malheureux, c'est cynique, mais c'est notre réalité.
Donc, ça veut dire, Daniel Stalendicki, qu'il faut que chacun d'entre nous prenne sa santé en main.
Mais c'est ce que j'allais dire. Je veux dire, on attend toujours que les autres fassent les choses pour nous.
C'est vrai.
Mais finalement, on a tous la possibilité de gérer. En fait, on gère tous notre alimentation, notre style de vie, notre sommeil.
L'exercice, le sommeil, le repos.
Il faut être responsable. Et je pense qu'un grand pas en avant, c'est de responsabiliser soi-même face à sa santé et reconnaître qu'on n'est pas obèse parce que ça nous est tombé du ciel. Et puis, toutes ces maladies non transmissibles, comme je dis, c'est pas venu parce qu'on l'a attrapé. C'est venu parce qu'on l'a choisi de cette manière-là. Pas toujours de façon consciente.
Absolument.
Totalement consciente, mais quand même.
Parfois par éducation. Parfois,
oui. Éducation, ouais. Tradition alimentaire, ouais. On mange comme on a mangé, nos parents, etc. Mais on a quand même un devoir de s'éduquer soi-même.
devoir d'être humain, de créature de Dieu en tant que chrétien.
On est responsable, mm-hmm. il faut se responsabiliser. On est responsable de notre santé. Et quand on entend des études que juste dormir 2 heures de plus ou 2 heures de moins, les pourcentages de maladies sont énormes dans un sens ou dans l'autre, ça doit nous inciter à dire, mais je me prends en main, en fait. Mm-hmm.
Mais ça nous encourage, moi, personnellement, je trouve, d'entendre tout ça ce soir, ça me met à cœur de le mettre en pratique, puis j'espère que nos auditeurs aussi vont faire de même.
On l'espère vraiment. Dominique, j'ai l'impression que tu voulais dire quelque chose.
Oui, j'aimerais juste renchérir avec ce que Denise Pankish disait. Cette facette de la responsabilisation est extrêmement, extrêmement importante. Je dois dire, c'est vrai que le gouvernement a ses responsabilités, mais en cabinet, lorsque je vois des patients, malheureusement, il faut que je le dise, très souvent, lorsque l'option est donnée d'investir du temps et de l'énergie sur une modification des habitudes de vie versus prendre la pilule, la grande majorité de mes patients vont choisir
la pilule.
D'accord? Mm-hmm. Alors, c'est pas pour rien qu'on appelle ça des habitudes. Une habitude, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et c'est terminé. D'accord? Mm-hmm. Une habitude, c'est vraiment un acte intentionnel qu'on fait régulièrement. Et c'est justement dans la régularité, dans la constance de l'acte qu'on voit des bénéfices. D'accord? C'est pour ça que pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent ou qui considèrent changer leurs habitudes de vie, ne faites pas l'erreur de tout faire en même temps. D'accord? Vous voulez commencer par le sommeil? Commencez par le sommeil et oubliez le reste. D'accord?
Oui.
L'important, c'est de commencer et lorsqu'on maîtrise une habitude, en ajouter une autre. Et ne vous inquiétez pas, les effets bénéfiques vont venir et ils vont être aussi grands que les efforts que vous avez investis. Et comme on est à Il est écrit, je suis obligé de mentionner un texte que vous connaissez bien, « Je puis tout par celui qui me fortifie ».
Absolument, absolument.
J'allais dire, pour qu'un nouveau comportement devienne une habitude, ça prend un certain temps quand même. Hein?
Ça prend du temps.
Au moins un mois, j'imagine.
Ben, ça commence par une décision.
Oui.
C'est toujours la décision,
oui.
Le choix. Et ça, c'est très personnel.
Et un choix qu'on refait chaque jour.
Puis à un moment donné, ça devient...
Et au fil des jours et au fil des semaines, ça devient quelque chose qu'on intègre.
Exact.
Ouais. Il peut y avoir éventuellement des petites rechutes, entre guillemets, mais on se relève. Et puisque, Dominique, tu parlais de ce texte qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », on s'appuie aussi sur l'aide de notre Créateur qui certainement veut que nous soyons... en bonne santé, la meilleure santé possible sur cette terre.
Il faut comprendre que toutes ces maladies sont réversibles. Si on suit les recommandations, c'est réversible. On sait que le diabète est réversible, l'obésité est réversible. Tout ça, c'est réversible.
Ça, c'est la bonne nouvelle.
C'est la bonne nouvelle. Et c'est la motivation pour se prendre en main et changer. Et comme M. Noël dit, on commence avec un point, un autre. Et les bons résultats viennent, enfin, c'est...
Ils vont venir.
Et souvent, c'est même très rapide, juste l'aspect de satisfaction, de se dire, je fais quelque chose de bien. La fierté de dire, j'ai pris ma santé en main.
Et on se sent mieux quand on le met en pratique.
Alors, on pourrait encore en parler longtemps, mais on s'est promis de ne pas être trop long. Merci beaucoup de ce que vous avez pu partager ce soir avec nous. Daniel Stanky, merci de votre présence parmi nous. Merci, Dominique, d'avoir été aussi en direct avec nous ce soir.
Bonsoir, oui.
Si on veut aller plus loin, on va terminer ensemble tout à l'heure aussi en priant, puisqu'on a parlé de Dieu. On veut prier pour ça, que Dieu nous aide à prendre de bonnes décisions. Mais si on veut aller plus loin, France, on propose à nos auditeurs de tirer parti de certains,
outils.
On parlait d'outils.
Mais juste peut-être avant, j'aimerais ça qu'on précise que les gens qu'on n'a peut-être pas pu répondre, de ne pas hésiter à, même s'il y en a qui n'ont pas posé de questions, ils nous regardent en différé, qu'ils nous écrivent
ils
quand même encore
en
direct. En commercial letécrit.tv parce qu'on va répondre quand même.
On va répondre
par
même si on répond
suite.
Après. Même
voilà,
si on répond
on
après,
répondre
on
par
va
la
répondre.
Suite. Donc, en fait, d'outils, bien, on est bénis parce que Mme Starenke a écrit plusieurs livres, puis on en a deux ici qu'on veut offrir. On n'a pas parlé beaucoup de la santé mentale, mais je trouve que dans celui-ci, qui est Réflexion pour une vie meilleure,
Moi, je trouve qu'on a quelque chose de positif autant pour le mental que pour le physique, parce qu'il y a des pensées philosophiques très positives hein, pour nous encourager à la simplicité. Voilà. Puis il y a aussi un aspect dans le livre où on apprend des choses par rapport justement aux différents comorbidités qu'on a nommées, mais que c'est possible de changer tout ça.
C'est ça.
Donc, c'est un petit livre simple. Je ne sais pas si vous avez quelques commentaires à rajouter.
Ben, disons, c'est mon 20e livre. Mm-hmm. Et oui, je l'ai fait simple. C'est un livre qui présente le choix de la simplicité dans tous les aspects de la vie physique, psychologique, sociale et spirituelle.
Mm. Très bien.
Donc, court, au point.
C'est vrai.
Et une lecture simple, rapide.
Très accessible.
Voilà, exactement. Mm. Donc,
et on peut le trouver donc sur le site d'Il est écrit.
Absolument.
Ou sur le site des publications Orion. Donc
oui, qu'on va parler d'ailleurs. Donc, Réflexion pour une vie meilleure, 13 $. Puis, on a aussi La santé totale. Donc, c'est un livre un petit peu plus volumineux. Oui. Moi, j'apprécie beaucoup parce qu'on fait le tour des grandes huit lois de la santé.
Les huit lois de la santé, exactement. Donc, le sommeil, l'exercice, la nutrition, l'hydratation.
Les choses gratuites, le soleil.
La respiration.
Ah, oui,
et,
c'est ça.
Et oui, la confiance aussi, la confiance
la
en
foi.
Dieu.
Exact.
Donc, chaque loi est étudiée et des études scientifiques sont rapportées pour appuyer, en fait, ce que nous savons tous, c'est le bon sens, en fait.
Ouais.
Tout cela, je veux dire, finalement, c'est beaucoup de bon sens.
Oui, c'est ça. On
revient
à la base.
C'est pas ésotérique. C'est très concret. C'est très pratique. C'est très
voilà. Puis on a même dans le livre quelques recettes santé aussi qu'on peut trouver.
Oui.
Donc, c'est très pratique. Donc, mais je voulais qu'on parle aussi peut-être de votre blog. Donc, vous avez votre site Internet.
C'est ça.
Publication Orion. .com, publication plurielle.
Oui.
Et on peut aller sur votre blog aussi. On peut
c'est aller, ça. Donc, présentement, depuis 2 ans, je m'astreins à faire un blog qui sort chaque semaine.
Chaque semaine, un nouveau sujet.
Un nouveau sujet, mais c'est des blogs qui sont basés sur des études scientifiques extrêmement récentes. Donc, jamais beaucoup plus bas que 2018, et si possible 20, 20, 21, 22 maintenant. Donc, sur des sujets d'actualité. Donc, il y a plusieurs blogs sur la COVID, justement. Il y en a sur le microbiote aussi, récemment. Donc, c'est très accessible.
C'est du matériel, du bon matériel pour pouvoir, justement, faire de cet épisode COVID, finalement, une occasion de rebondir
voilà.
Et d'aller vers une meilleure
et
santé.
Et d'en tirer, finalement, quelque chose de bien
positif.
Pour notre
exactement.
Santé.
Oui.
Puis tu nous rappelles aussi qu'on avait fait quelque chose d'intéressant avec Dominique Noël.
Oui, absolument. En fait, c'est dès le début hein, de la pandémie, Dominique Noël et toi, Rémi, vous avez fait 11 capsules qui s'intitulent « Plus fort que le coronavirus ». Donc, ce sont des petites capsules d'environ 10 minutes.
Oui,
environ,
un petit
ça
peu
varie
moins,
un petit peu. Donc, vous parlez vraiment de plusieurs aliments, plusieurs outils, plusieurs choses qu'on peut utiliser pour fortifier notre système, passer au travers de cette pandémie. Donc, c'est très apprécié. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est pas long, c'est court et c'est très riche en informations.
Et ces 11 capsules, Dominique, tu confirmes qu'elles sont toujours... elles sont toujours valables. Elles n'ont pas...
toujours valables. Toujours valables.
Toujours valables.
Et on les trouve sur le site Internet d'ilestécrit.tv, évidemment, dans la section vidéo.
Voilà. Très bien, très bien. Ouais. Merci, France, de nous rappeler cela. Merci encore une fois à vous d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous qui avez été présents avec nous pour cette émission. Merci d'avoir envoyé vos questions. Il y a quelques questions auxquelles on n'a pas répondu ce soir, mais comme France l'a promis, on va vous répondre de manière personnelle pour que vous puissiez aussi avoir autant que possible une réponse à votre question. Merci à toute l'équipe technique qui a rendu possible cette émission ce soir. N'hésitez pas à nous faire part encore de vos commentaires, de vos questions. Et puis, bien sûr, on va se retrouver dans quelques temps pour une autre émission. Il est écrit en direct. J'aimerais, en terminant cette émission, vous souhaiter à tous de pouvoir mettre en pratique ces bonnes habitudes de santé qui vont nous permettre de vivre et de vivre pleinement ce pour quoi nous avons été créés. Et si vous voulez bien, eh bien on va terminer par une prière ensemble pour demander justement à notre Créateur de nous aider dans ce cheminement vers la santé. Bon Père du Ciel, merci de ce que tu nous as créé et de ce que tu nous as donné aussi le mode d'emploi pour une bonne santé. Ce soir, on a pu rappeler quelques-uns de ces éléments. Et chacun d'entre nous, on peut, à la lumière de ce qui a été partagé, évaluer ce que peut-être on doit encore améliorer, mettre en pratique. Peut-être pour certains d'entre nous, comme on l'a dit, juste commencer. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à te faire confiance, à savoir que tu as un beau projet de vie et de santé pour chacun d'entre nous, à faire un pas en avant et à pouvoir constater à quel point la mise en pratique des lois de la santé transforme notre existence. Te prions pour tous ceux qui peut-être font face encore à des conséquences de la Covid. Sois avec eux, donne-leur aussi de pouvoir voir pas à pas une amélioration. Et nous tous, que nous puissions t'honorer aussi à travers nos habitudes de vie. Garde-nous dans ta paix, donne-nous une bonne semaine. Nous t'en prions en ton nom. Amen. Amen.